L'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Queyrouga. Vous en avez peut-être vu pas trop loin de chez vous, vous en avez peut-être entendu parler, des mines de charbon, des mines d'or, des mines de tungstène et autres minerais sont en train d'ouvrir ou de réouvrir en France, en métropole. Il y a plus de 10 ans, j'avais rencontré les habitants de la Nièvre qui s'opposaient à l'ouverture des plus grandes mines de charbon à ciel ouvert de France. Et ça m'avait surpris. Au cours du XXe siècle, les mines avaient été fermées les unes après les autres, en Lorraine bien sûr, mais pas que, et avec les drames humains qu'on connaît. J'avais cru que c'était en relation avec les normes environnementales de qualité de l'air et de protection de l'environnement. Alors pourquoi, à nouveau, y a-t-il les projets de mines ici, en métropole? Certains diront pour l'emploi, et alors on peut se demander si une mine crée plus d'emplois que l'économie d'un territoire qui serait alors mise en péril par l'activité minière, comme par exemple le tourisme et l'agriculture. D'autres diront, avec notre gouvernement, que les mines participent à la relance économique de notre pays, à la réindustrialisation. Mais de quelle économie parle-t-on? De celle qui pollue et dépollue? Ou de celle qui exploite durablement les richesses du territoire? Alors finalement, si la volonté politique vient d'en haut et que le gouvernement veut absolument réouvrir des mines, on peut se dire que les territoires ne sont pas tous égaux selon la capacité de mobilisation de chaque territoire, des collectifs de citoyens et des élus locaux peuvent s'ériger contre les permis d'exploitation minière qui sont octroyés par le ministère de l'économie. On en voit pas mal des mobilisations en Bretagne, en Creuse, au Pays Basque et dans d'autres territoires. Mais ce ne sont pas des mouvements nimbistes, vous savez, ceux qui disent « pas chez moi », mais qui laisseraient faire ailleurs. Car ailleurs, ce sont souvent des territoires ruraux, peu peuplés, où la mobilisation de la société civile est difficile. Et ailleurs, ça peut être aussi bien sûr hors métropole, comme en Guyane française, où actuellement un méga projet de mine d'or met en péril la forêt amazonienne et ses richesses naturelles incommensurables. Ailleurs, c'est aussi et surtout largement dans des pays pauvres qui vendent, en plus de leurs ressources en minerais, une sorte de droit à polluer leurs terres, leur eau et une main-d'œuvre bon marché. Alors finalement, la vraie question, c'est surtout, est-ce qu'on a vraiment besoin de continuer à extraire tous ces minerais? Alors pour les métaux, il y a une autre solution. Et elle est liée notamment à cette fameuse raréfaction des métaux qui rend leur exploitation de plus en plus coûteuse et de plus en plus complexe. Parce que les gisements rentables ont été largement exploités. Tous, presque tous. Justement, sauf un. Un nouveau gisement qui s'est constitué de jour en jour à l'abri des regards et oublié de tous. Et ce gisement aujourd'hui, c'est nos poubelles. La technique, c'est le recyclage des métaux. Les mines du XXIe siècle, ce sont nos décharges. Et là, le débat est complètement différent. Petit zapping, glané sur le net. Le JT de France 3.
Pour créer des emplois, la France doit-elle rouvrir ses mines? Plusieurs sociétés en sont persuadées et sondent déjà le sous-sol français, à la recherche d'or dans la Creuse ou en Maine-et-Loire, ou de cuivre et de zinc dans la Sarthe. Un renouveau minier encouragé par l'État, qui a déjà délivré plus d'une dizaine de permis de recherche, et ce n'est qu'un début. Imaginez la mine de demain, c'est le travail quotidien de ces géologues. Entre relevés d'extraction des sols, nouvelles cartes géochimiques et modélisation des mines en 3 dimensions, il faut estimer quel gisement sera rentable.
Ouais, tu peux taper ce que tu vois là. À peu près au même niveau, on a des filons qui partent dans l'autre sens.
Qui redescendent en dessous.
Pour chaque permis de recherche, 10 millions d'euros sont investis en moyenne pour explorer les ressources, très variées, en métropole. Dans le bureau du patron, un état des lieux montre les 6 permis de recherche déjà obtenus. Rouvrir des mines est pour lui une question d'indépendance énergétique.
Tous les métaux que nous utilisons sont importés. Or, certains de ces métaux deviennent rares. En ce moment-là, on les appelle des métaux critiques, puisqu'ils sont détenus par un tout petit nombre de pays qui peuvent décider, du jour au lendemain, de stopper leur expédition vers la France et de mettre en péril des pans entiers de l'économie.
Des mines françaises stratégiques, mais qui suscitent la polémique en Bretagne, comme dans les Pyrénées. Sur 10 projets d'exploration, on estime que 9 ne seront jamais exploités, pas assez rentables ou trop contestés localement.
Des mines d'or, on n'en veut pas. Pas rien dessous.
Alors, ce projet de mine au Pays Basque, de quoi il s'agit ?
Donc, c'est une entreprise qui s'appelle Sudmine qui a fait une demande de permis exclusif de recherche pour trouver de l'or afin d'ouvrir une ou plusieurs mines d'or à ciel ouvert sur un périmètre donc de 126 km². Il s'avère que ce périmètre qui est demandé, donc c'est entre Cambeau-les-Bains et Saint-Pétion-Nivelles. Ça couvre 11 communes et c'est un territoire où depuis maintenant de longues années, les agriculteurs se sont engagés sur une agriculture de qualité. Et notamment, il y a 3 AOP, 3 appellations d'origine protégée qui se sont développées sur ce territoire. Tout le monde connaît, hein, c'est le fromage de Osso Irati.
Fromage de brebis, non ?
Fromage de brebis, c'est le porc basque, hein, le jambon, le bayonne, tout le monde connaît. Et puis donc, le piment d'Espelette.
Le fameux.
Le fameux piment d'Espelette, tout à fait. Et donc, cette agriculture nécessite des terres de qualité, de l'eau de qualité. Et il est absolument inenvisageable qu'il y ait un projet de mine d'or qui s'ouvre à côté de ces champs-là, parce que ça polluerait durablement les terres.
Comment ça se fait qu'on recommence ce genre de projet en France, un peu partout ? On entend des exemples en Bretagne, en Creuse. Vous avez une analyse ? Parce que finalement, on retourne un petit peu en arrière, on a l'impression.
Alors effectivement, parce que la France a pu être un minier au 19e siècle, ça a été une volonté politique en fait, qui a été soutenue par Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie. Et le premier, c'est Arnaud Montebourg qui avait en 2012 décidé que dans le cadre du produire français, il fallait que la France se rouvre des mines. Simplement, depuis le 19e siècle, le contexte a complètement changé et notamment, on a déjà extrait depuis longtemps suffisamment de métaux et aujourd'hui la seule solution qui est valable c'est le recyclage et notamment pour l'or puisqu'ici on a un projet de mine d'or. Le recyclage permet déjà aujourd'hui de fournir plus de 3 fois les besoins industriels en or. On a beaucoup d'or dans nos puces électroniques, dans nos téléphones, hein, très, très simplement. Et on recycle très, très peu actuellement. La filière de recyclage est vraiment ridiculement développée. Et bien qu'elle soit très, très faible, cette filière de recyclage, elle suffit déjà à fournir 3 fois les besoins industriels en or. Donc la seule raison de continuer à ouvrir des mines d'or, c'est uniquement pour une industrie de luxe, c'est-à-dire pour les bijoux et pour la finance, parce que l'or est une valeur financière. Donc en fait, on sort l'or de sous la terre pour le mettre dans le coffre-fort des banques centrales, et ce qui est vraiment ridicule. Et alors le problème, c'est qu'une fois qu'on a sorti cet or de sous la terre, elle est à tout jamais perdue pour l'agriculture. Au bout d'un moment, on va quand même s'apercevoir que l'or ne se mange pas, et par contre, les générations derrière nous, elles auront des terres qui ne seront plus propices à l'agriculture. Il y a un vrai choix là maintenant de société. C'est pas une question de savoir s'il faut jeter nos téléphones, parce que, une fois encore, avec l'or qui est déjà sorti depuis l'Antiquité, hein, on sort de l'or, on a largement tout ce qu'il faut pour couvrir les besoins qu'on pourrait considérer comme importants, les besoins industriels. Quant à faire des bijoux, ça se recycle aussi, et l'or de la finance, franchement, c'est juste une valeur spéculative qui n'a rien à voir avec un vrai besoin humain.
D'accord, donc c'est une économie qui est vraiment lié à un système de capitalisation. Enfin, là, c'est vraiment de la thésaurisation.
Alors, c'est vraiment de la thésaurisation. C'est vraiment, effectivement, la capter de l'or pour se constituer des réserves d'ordre financier. Mais une fois encore, pourquoi c'est gênant aussi ? C'est gênant parce que, en même temps, ça a définitivement sorti de l'agriculture des terres. Et quand aujourd'hui, on sait qu'il faut développer des circuits courts, il faut se garder toutes ces terres qui sont en périphérie urbaine, en fait. Parce qu'on aura aussi un jour plus d'énergie fossile. Un jour, on sera bien obligé de se rendre compte qu'il faut se réapprovisionner proche de nos centres de vie. Donc, il faut absolument préserver les terres agricoles dans les ceintures périurbaines. Et c'est là qu'ils veulent chercher l'or, justement. Donc, il y a un vrai conflit d'intérêts.
Tout à l'heure, il était dit dans les prises de parole après la manif, l'or, pour nous, il n'est pas sous la terre, l'or, c'est la terre.
Tout à fait. L'or, notre trésor, notre or à nous, ce qui est important pour nous, effectivement, on n'est absolument pas sous la terre. Notre or, c'est la terre elle-même, c'est celle qui nous permet de vivre, hein, tout simplement. Hein.
Sans parler, en plus, effectivement, du fait que ce type de projets miniers sont extrêmement polluants pour la terre, pour l'eau.
Tout à fait, parce qu'en fait, la mine par essence, donc, consiste à aller sortir de la roche et de la terre les quelques grammes de métaux qu'on espère y trouver. C'est-à-dire qu'il faut casser une tonne de roche pour récupérer 3 ou 4 grammes d'or. Donc c'est vraiment des proportions sans commune mesure les unes avec les autres. Et simplement, donc une fois que cet or, pour l'extraire en fait, il a fallu broyer la roche, broyer la terre, et il reste donc autour de la mine ce qu'on appelle des résidus. Donc d'un côté on a le trou de la mine, et de l'autre côté on a des montagnes entières hein, de ce qu'on appelle de résidus miniers. Simplement dans ces résidus ce n'est plus la terre comme elle était, c'est une terre qui a été broyée. Et quand il pleut, par contre l'eau de pluie elle va continuer à tomber à tout jamais sur ces résidus, elle va entraîner avec elle ce qui est dorénavant mis à nu, mis à jour, parce que quand on a broyé pour récupérer l'or, on a aussi en fait détaché notamment l'arsenic. L'arsenic est géologiquement toujours lié à l'or. Et ce qui fait qu'après, pendant des décennies et des siècles, quand il va pleuvoir sur ces résidus, l'eau va entraîner avec elle l'arsenic, donc dans les rivières. Hein. C'est pour ça que la mine est excessivement polluante pour l'eau, parce que c'est l'eau de pluie qui va entraîner avec elle tous les métaux qui n'ont rien à faire dans l'eau habituellement. Et quand on parle de pollution, on parle de maladie, hein, bien entendu. Voilà, et donc par rapport aux mines qui ont pu exister il y a longtemps, et effectivement la France a été un peu minée, aujourd'hui, une fois encore, la vraie mine responsable, c'est ce qu'on appelle la mine urbaine, c'est-à-dire c'est le recyclage. Là, on est en train de se parler, là, au milieu de tous ces gens, il y a beaucoup plus d'or au mètre carré devant l'estrade de la prise de parole de la manif contre les mines d'or, donc que ici, sur les terres où ils veulent chercher. Parce que tous sur nous, on a dans nos puces électroniques, on a quelques microgrammes d'or, mais tout ça mis bout à bout, on le recycle.
Par un collectif large d'associations qui se battent contre ce projet de mine d'or. Nous donnons la parole à Jean-René Etchegaray en tant que président de la communauté d'agglo Pays Basque.
Je souhaiterais qu'on puisse adresser d'ici, de cette place de Roland Barthes, une adresse au gouvernement, à ceux qui ont aujourd'hui le pouvoir de décision, la possibilité de dire non à ce projet scandaleux. Nous avons tous ici une responsabilité. Nous avons reçu des terres de nos ancêtres. Nous devons les transmettre à nos enfants. Or, le projet qui est aujourd'hui présenté par Sudmine est un projet qui porte atteinte au fondement même de la culture. La terre est dans l'histoire du Pays Basque une véritable fondement essentiel. Nous sommes tous enfants ou petits-enfants d'agriculteurs. La terre nous a fait. C'est la terre de notre mère. Or aujourd'hui, ce projet extrêmement dangereux, je ne suis pas certain que tous nos concitoyens prennent la mesure du danger de ce projet. Et c'est la raison pour laquelle il faut que notre mobilisation soit importante et qu'aujourd'hui, on ne soit qu'au début d'une grande mobilisation. Le ministre de l'économie a reçu de la part des maires du Pays Basque, que je représente, un courrier qui lui indique que les élus du Pays Basque n'accepteront jamais qu'un tel projet puisse voir le jour. Il faut bien évidemment que la société civile que vous êtes vienne également nous soutenir dans cette démarche. Et je n'en doute pas par le monde qu'il y a aujourd'hui. Mais nous jouons ici à un moment important de notre histoire. Car notre République est malade. On marche sur la tête. On n'aurait jamais dû imaginer qu'un projet de cette nature puisse être présenté. Certains pensent d'ailleurs qu'il n'y verra jamais le jour. Mais c'est faux, parce que le projet avance. Il y a un certain nombre d'avis qui ont été émis par un certain nombre de technocrates qui viennent expliquer qu'effectivement ce projet pourrait voir le jour. 128 kilomètres carrés de terre qui seraient renversés au Pays Basque pour chercher une or hypothétique. Mais notre richesse, elle n'est pas sous la terre. Notre richesse, c'est la terre. Et c'est la raison pour laquelle ce territoire qui a vu passer des voies ferrées, qui a vu passer des autoroutes sans même être consulté, eh bien ce territoire, notre territoire, veut désormais avoir son mot à dire. Et aujourd'hui, on veut dire non à ce projet. On dit au ministre de l'économie qu'il ne doit pas signer cette autorisation. Et que s'il veut avoir un peu de crédibilité, eh bien, il ne la signera pas. Car de toute façon, par tous les moyens, nous nous opposerons à la réalisation de ce projet. Il vaut mieux que la République reste digne. Merci.
Et alors maintenant, le projet que nous connaissons ici au Pays Basque, vous savez sans doute qu'il y a d'autres régions qui connaissent les mêmes procédures et les mêmes demandes de permis pour rouvrir des mines. Et nous accueillons aujourd'hui quelqu'un qui vient de Bretagne, où il y a une opposition très très forte contre des projets d'ouverture de mines d'or. Et donc nous accueillons Lucie, qui est là. Lucie Guillot, qui est donc de l'association qui s'appelle Vigilust, donc contre le permis de Merléac en Bretagne. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'en fait, pour aujourd'hui, nous avons reçu énormément de messages de solidarité de beaucoup d'associations dans le Limousin, dans les Pyrénées à Salo, de la Sarthe, de la Bretagne, qui regardent ce qui se passe ici à Bayonne et qui nous disent « On est comme vous, les mines c'est ni chez nous ni chez vous, les mines c'est ni ici ni ailleurs. »
Donc bonjour à tous. Après avoir entendu un de vos élus, je vais rajouter quelque chose à mon discours. On aurait aimé aussi avoir des élus aussi motivés avant l'octroi de nos permis, parce que chez nous, ils sont déjà octroyés. Ça n'a pas été le cas, on était tout seuls. Donc bravo. Donc en Bretagne, en fait, il y a 3 permis de recherche minière qui ont été octroyés entre 2014 et 2015. Donc on est au-delà de ce qui se passe ici, puisque les papiers ont été signés par le ministre de l'économie, qui est aujourd'hui président de la République. Donc dans l'opacité la plus totale. Donc ça a permis à Variscan Mines, donc nous c'est la société en fait qui cherche en Bretagne, de commencer ses travaux miniers. Donc tranquillement, en 2015, ils ont même passé un hélicoptère au-dessus des communes, personne ne savait ce que c'était, ils ont commencé les recherches. Donc la mobilisation citoyenne, elle a permis de ralentir puis de stopper cette avancée, donc au printemps dernier. Cette mobilisation, elle a été rejointe du coup pendant les législatives par les collectivités, donc la région Bretagne et le département des Côtes d'Armor, puisqu'on n'avait aucune position avant. Donc elles ont pris des vœux pour l'abrogation des titres miniers en Bretagne. Le 21 juin, nous avons été reçus à l'Élysée, accompagnés de la région et d'un député breton, pour demander à l'État d'abroger ces permis qui sont incompatibles avec notre territoire et imposés sans débat en amont. On vient d'apprendre par un courrier du gouvernement, adressé à l'une de nos sénatrices, que l'État n'abrogera rien du tout. Oh. Voilà. De plus, Variscan a annoncé début de semaine un programme de travaux conséquent pour cette année en Bretagne. Il y aura environ 1900 mètres de forage, si on ne s'y oppose pas, ils y vont. Donc ni la mobilisation citoyenne, ni les décisions de nos collectivités n'est respectée. C'est aussi le cas ici, puisque le ministre de l'économie refuse de répondre au sujet de la demande de permis minier de Cambo. Il est pourtant en charge, c'est lui qui a la compétence d'octroyer ou d'abroger les permis. C'est pas l'écologie. Pour l'État qui veut relancer l'activité minière, abroger des titres miniers en Bretagne ou ne pas octroyer de permis miniers au Pays Basque pourrait être perçu comme un recul par les sociétés minières et leurs investisseurs. Donc une très mauvaise opération, il faut le garder en tête. La mobilisation citoyenne sera le seul moyen de faire reculer le gouvernement sur la politique d'extraction minière. Guyane, 7 hectares de forêt primaire menacée. Pour de l'or. Creuse, Haute-Vienne, Ariège, Sarthe, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, Bretagne et Pays Basque, tous ces territoires peuvent-ils être sacrifiés au nom de choix industriels que nous refusons? Nous sommes tous en lien, donc comme Martine nous disait tout à l'heure, et plusieurs collectifs anti-mines qui n'ont pas pu faire le déplacement ont souhaité vous exprimer leur soutien pour cette super mobilisation. Alors nous, on mobilise en Bretagne, mais alors vous, vous êtes champion hors catégorie là. Merci.
Alors Florence, donc tu es de BC, une des organisations qui sont contre ce projet de mine au Pays Basque. Alors BC, vous avez fait quoi comme action?
Donc avec BC, nous sommes 17 militants à être montés à Seiche-Brière, un village proche de Orléans, à 2 heures en dessous de Paris. Nous avons mis en place un chantier fictif et symbolique devant le domicile de M. Christian Vallier, qui est le président de Sudmine. Donc Sudmine, la société qui veut venir creuser en Pays Basque sur 11 communes et 126 km² pour trouver de l'or ou des substances connexes. Voilà, donc nous nous sommes présenté devant chez lui et nous avons essayé de lui faire passer le message de comment nous nous sentions au Pays Basque, ce que représentait ce projet à nos yeux et à quel point il nous dérangeait.
Alors donc c'était assez particulier parce que vous êtes arrivé devant chez lui avec...
Dès 8h du matin, nous sommes arrivés devant chez lui avec une pelleteuse que nous avons louée pour mimer la scène jusqu'au bout, donc avec un conducteur qui faisait des mouvements et qui mimait de creuser devant son domicile.
Donc vous n'avez pas creusé quand même?
Non, on a pris le parti de ne pas creuser, puisqu'on ne veut pas qu'il vienne creuser chez nous, ça nous paraissait paradoxal d'aller creuser chez lui, mais on voulait vraiment lui faire passer le message que non, ce n'est pas possible et qu'on ne veut pas qu'il fasse ce projet.
Alors bon, lui c'est un grand PDG, comment il vous a reçu déjà? Vous avez pu parler avec lui?
Il n'était pas présent dans son village ce jour-là, il était au niveau de Toulouse, on l'a su par un voisin et collègue à lui, puisque la société Sudmine est domiciliée à Seiche-Brière, mais la société Géoplus Environnement, qui est la société qui a fait l'étude d'impact et à laquelle il appartient aussi, est située vers Toulouse. Donc ce jour-là, il était à Toulouse. On lui a laissé un message vocal, mais il nous a pas répondu. Par contre, il a envoyé un huissier, donc preuve qu'il a bien entendu parler de notre action, un huissier pour que cette personne constate s'il y avait des dégâts. Mais nous avons pu parler avec l'huissier qui a dit qu'on n'avait rien détruit, voilà, rien abîmé, donc il n'avait pas, qu'il prenait simplement des photos pour faire un état des lieux.
D'accord, voilà. Alors ça c'est une façon de faire qui est une action directe, non violente, assez typique des mouvements altermondialistes comme BC, qui veut faire passer un message fort avec une action symbolique, mais là il y avait aussi un buffet, vous avez offert justement toutes ces richesses que porte la terre basque aux habitants de ce village, de ce PDG d'une grosse compagnie minière.
Oui, alors pour commencer je trouve important en effet de souligner que c'est une action non violente et déterminée, mais que nous n'avions nullement l'intention de faire du mal ni à sa propriété ni aux habitants, et ça nous a paru important de partager un moment avec ces habitants-là, de ne pas simplement débarquer dans leur petit village de 200 habitants et ils pourraient le prendre comme une agression, mais d'aller à leur rencontre, de leur expliquer pourquoi on était là, ce qu'on défendait, et de les inviter à partager les richesses de notre territoire. Et on a été très bien reçus. Déjà, les gens nous soutenaient pour la plupart. On a même eu une petite mamie qui est venue nous voir après l'apparition des gendarmes qui sont venus nous questionner pour nous dire qu'elle tenait à venir nous soutenir avant que les gendarmes nous embarquent, même s'ils ne nous ont pas embarqués. Donc vraiment nous dire qu'elle nous comprenait, qu'elle nous soutenait, et des personnes qui sont venues à ce buffet. On devait être une trentaine ou un peu plus le soir, donc c'était un moment d'échange, de partage avec monsieur le maire du village et avec les habitants qui étaient là pour découvrir et pour essayer de comprendre le projet et pour nous faire part de leur soutien. Ça servait aussi pour la grande mobilisation d'aujourd'hui, surtout d'appeler l'attention de la presse pour amener d'autant plus de gens aujourd'hui à venir manifester et pour qu'enfin au niveau du gouvernement qui doit apporter la réponse, on soit entendu. Et donc ça a été le cas aujourd'hui puisqu'on était à plus de 2500 voire 3000, je ne sais plus, manifestants. Donc c'est notre mission via cette action a été réussie.
Sous la pluie. Hein.
Sous la pluie ce matin notamment.
Voilà. D'accord. Et puis c'est pas fini parce que là du coup vous distribuez dans le cadre de la manif quand même l'adresse et le numéro de téléphone de ce PDG de Sudmine pour permettre aux manifestants de pouvoir envoyer des messages comme quoi ils ne sont pas d'accord pour ce projet de mine au Pays Basque.
Oui, tout à fait. Nous, on est très peu à avoir pu faire ce déplacement-là. Donc, c'est 700 km pour aller apporter notre opposition devant son domicile. Mais on invite maintenant les gens à suivre cette action et à pouvoir s'exprimer eux-mêmes, d'une manière non violente, toujours, mais à apporter eux-mêmes leur voix jusqu'à chez lui ou via son téléphone. Et pour qu'ils comprennent bien qu'il n'a aucun intérêt à poursuivre ce projet, puisque même s'il venait ici, en fait, on ne le laisserait pas faire dans tous les cas. Et surtout, il voulait que ce projet soit participatif, avec un financement participatif, avec un comité local pour veiller à ce que tout se passe bien. Et donc, on appelle les gens d'ici à lui dire eux-mêmes que ça ne se passera pas bien parce qu'ils ne veulent pas prendre part, on ne veut pas prendre part à ce projet et on ne le laissera pas venir creuser, même s'il était accordé. On a pu rencontrer quand même le directeur de Sudmine. Mais voilà, c'est encore autre chose, c'est au cours de la journée, des habitants nous ont informé que les bureaux de Géoplus Environnement étaient situés dans le village à côté. Et donc, 8 militants sont allés toquer aux portes de Géoplus Environnement pour demander à parler avec quelqu'un. Nous n'avons pas pu voir le président de Sudmine, mais le directeur de Sudmine est sorti des bureaux de Géoplus Environnement. Donc là encore, il y a un conflit d'intérêts, puisque le président de Sudmine est le directeur de Géoplus Environnement, et le directeur de Sudmine travaillait à Géoplus Environnement, donc la société qui a fait l'étude d'impact. Et nous avons pu échanger avec lui, et lui dire à lui clairement que nous ne voulions pas et le rencontrer, le voir et lui montrer notre visage, montrer un visage à cette opposition.
Une action réussie alors.
Voilà, une action qui ne pouvait pas mieux se passer à notre sens.
Et maintenant, un extrait de CO2 Mon Amour, cette super émission de radio de Denis Chessou, sur France Inter le 20 octobre 2017.
Direction maintenant la Guyane, le WWF dénonce le non-sens économique d'un projet qui s'appelle Montagne d'Or, qui est porté par le promoteur russe Norgold, qui est envisagé quand même en pleine Amazonie, près de deux réserves biologiques, donc elles ont intérêt à souscrire vite fait une assurance vie, celle-là, et sur la durée donc du projet, c'est-à-dire 12 ans, eh ben, le promoteur vous dit qu'on utiliserait 57 000 tonnes d'explosifs, 46 000 tonnes de cyanure, 142 millions de litres de fioul. Je me tourne vers vous, donc bonjour Pascal Canfin, ancien ministre et aujourd'hui directeur du WWF. Portez-nous s'il vous plaît votre analyse sur ce sujet.
Bonjour Denis. Justement, on a essayé de ne pas rentrer dans l'opposition habituelle entre la création d'emplois, la croissance, le développement nécessaire de la Guyane. Je rappelle juste un chiffre, le taux de chômage en Guyane est deux fois plus élevé qu'en métropole pour situer l'importance du développement économique et de son enjeu. Et de l'autre côté, l'Amazonie et la protection de la forêt. Parce que on sait très bien que si on entre uniquement dans ce débat sur une très très grosse infrastructure jamais faite en France, pour donner un ordre de grandeur aux auditeurs, l'espace qui va être mobilisé par cette mine, qui va être une mine à ciel ouvert, c'est l'équivalent de 32 stades de France. Ah. Alors déjà, deux stades de France, c'est difficile à imaginer, mais on voit à peu près. Mais alors 32 stades de France, ça commence à faire beaucoup. Ça va être ça la réalité dans la forêt amazonienne. Et tout ça pourquoi ? Eh bien, pour créer 750 emplois, 750 emplois qui ne verraient pas le jour s'il n'y avait pas l'équivalent de 420 millions d'euros d'argent public de subventions, 420 millions d'euros sur 750 emplois, ça fait à peu près 560 000 euros publics de l'argent du contribuable, le vôtre, le mien, celui des auditeurs, pour subventionner ce projet qui, par ailleurs, va détruire le capital naturel exceptionnel de l'Amazonie.
Juste, je répète ce chiffre, 560 000 euros publics pour chaque emploi direct annoncé, c'est ça, hein ?
Absolument. Quand on sait que le gouvernement a supprimé un certain nombre d'emplois aidés qui coûtent autour de 10 à 13 000 euros par an, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Donc, c'est à la fois un non-sens écologique, bien évidemment, mais c'est aussi un non-sens économique. Parce que croire que ce projet, qui va coûter beaucoup d'argent public, va développer la Guyane, c'est totalement faux. C'est au contraire un modèle de pays en développement, c'est-à-dire j'ai un capital sur mon sol, je le fais extraire par une compagnie étrangère, en l'occurrence russe, qui va capter la rente, et je détruis le capital qui est autour de moi. Ça, c'est vraiment un modèle qui me semble être l'anti-modèle que la Guyane doit suivre. Et par ailleurs, dans un contexte où l'argent public, on le sait, est rare, eh bien, ces 420 millions d'euros de subventions ne seront pas dépensés une deuxième fois. Ce qui veut dire que toutes les filières d'économie durable, l'agriculture durable, les pêcheries soutenables, le développement de la biomasse, des énergies renouvelables, etc., eh bien, elles, on va leur dire quoi ? On va leur dire « Ah, il n'y a pas d'argent public ». Donc on est vraiment là sur quelque chose qui est très important, qui va se décider dans les prochains mois, puisque le consortium doit décider s'il développe réellement ce projet. C'est pour ça qu'on sort maintenant les alertes et j'espère que ce sera l'occasion aussi d'une mobilisation citoyenne contre ce projet.
C'était l'ours et la carotte, écoutable sur Internet.